France Culture.
Les tirs continuent entre Iran et Israël après que Téhéran ait exclu toute négociation avec les États-Unis. Un site nucléaire iranien a été visé tôt ce matin. Nous irons à Jérusalem dès le début de ce journal. Un conflit qui pourrait bien avoir des conséquences sur l'Ukraine, qui s'inquiète de tomber dans l'oubli et de voir les aides internationales détournées, ce qui profiterait au Kremlin. En France, la vague de chaleur atteint des sommets aujourd'hui avec des pics à plus de 35 degrés. L'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré est devenu inatteignable. On y revient avec notre invitée Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil pour le Climat. Pour ce premier jour de l'été et la fête de la musique, la star des Jeux Olympiques fait son grand retour. La Vasque s'envolera dès ce soir dans le jardin des Tuileries. De nouveaux tirs de missiles la nuit dernière sur Israël. Ce matin, une attaque d'une dizaine de drones venus d'Iran avec un impact direct sur un immeuble de la ville de Beit She'an, proche de la frontière jordanienne. Pas de victimes pour l'instant, mais des dégâts importants. Et l'armée israélienne fait état de vastes opérations la nuit dernière en Iran. Bonjour Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Une source militaire israélienne affirme ce matin que l'aviation a frappé à nouveau le site nucléaire d'Ispahan dans le centre de l'Iran.
Oui, cela est plus d'une semaine après le début de la guerre entre l'Iran et Israël. Deux sites de production de centrifugeuses de cette installation ont été ciblés, toujours selon cette source, qui ajoute que cela a porté un coup sévère aux capacités de production. Israël affirme également avoir frappé un tunnel abritant des missiles balistiques, mais on annonce surtout dans le même temps l'élimination de 5 hauts responsables des gardiens de la Révolution, notamment Saïd Izadi, qui, selon le ministre de la Défense israélien, a coordonné le financement et l'armement du Hamas en prévision de l'attaque du 7 octobre 2023. L'armée affirme aussi avoir éliminé Amin Pour Joukadi, qui lui aurait dirigé des centaines d'attaques de drones sur Israël.
Israël prépare sa population à une campagne militaire prolongée.
Oui, Israël estime avoir à ce stade, grâce aux frappes sur l'Iran, retardé d'au moins 2 ou 3 ans sa possibilité de disposer de la bombe atomique. Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar, dans un entretien au journal allemand Bild, prévient que son pays ne s'arrêtera pas tant que cette menace n'aura pas disparu. Hier, Estelle, le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a déclaré que les Israéliens devaient se préparer à une campagne militaire prolongée contre l'Iran.
Merci Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Et on le rappelle, depuis le début de ce conflit, le ministère iranien de la Santé compte 430 morts et plus de 3500 blessés. Alors que les frappes entre Israël et l'Iran s'intensifient, l'Ukraine s'inquiète que la défense de leur pays face à l'invasion russe ne soit compromise, voire que l'effort de guerre du Kremlin ne soit renforcé. Loin du front ukrainien, cette guerre pourrait avoir des conséquences bien réelles en Ukraine. Si Téhéran est un allié militaire de Moscou, ce nouveau conflit pourrait aussi détourner l'attention, les armes et les moyens des alliés occidentaux. Sur place, Stanislas Poyet.
À Kiev, les regards se tournent désormais vers le Moyen-Orient, alors que le pays est sous bombardement intense depuis quelques semaines. On craint d'être oublié. Oleksandr Merejko, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement.
Cette guerre pourrait détourner l'attention du monde de l'agression russe contre l'Ukraine, ce qui servirait les intérêts de Poutine. Elle pourrait aussi détourner des ressources militaires, par exemple des ressources américaines de l'Ukraine vers Israël.
Déjà le mois dernier, le président Zelensky avait révélé que 20 000 missiles anti-drones américains avaient été déroutés vers Israël. L'analyste Vitaly Portnikov s'inquiète, lui, de la hausse des prix du pétrole.
La Russie a un intérêt direct à ce qu'Israël détruise les infrastructures pétrolières iraniennes, ce qui fait déjà flamber les prix du pétrole, permettant ainsi à la Russie de poursuivre la guerre en Ukraine, de se préparer à d'autres guerres pour les années à venir.
À Kiev, on se réjouit toutefois de l'affaiblissement d'un allié de la Russie qui fournit les drones et les missiles qui touchent chaque jour le territoire ukrainien. Cette semaine encore, en Ukraine, au moins 31 civils ont été tués.
Stanislas Poyet, correspondant en Ukraine pour France Culture. Un homme de 55 ans, suspecté d'avoir acheté des viols d'enfants en ligne, est arrêté en début de semaine dans la région de Lille, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris France Info auprès du parquet de Paris. En tout, 15 chefs d'accusation sont retenus à l'encontre du suspect, notamment complicité de traite d'êtres humains et complicité de viols sur mineurs de 15 ans. Il est accusé d'avoir commandé à distance entre 500 et 600 viols à une famille basée en Colombie. En ce premier jour d'été, le thermomètre est encore monté d'un cran. 16 départements en vigilance orange canicule, des pics de chaleur jusqu'à 39 degrés. Ces températures excessives touchent toute la planète. La météorologie marocaine a annoncé que l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. Plus 1,49 degré par rapport à la période de référence 1991-2020. Tous les indicateurs du dérèglement climatique sont au rouge. Pour en parler avec nous ce midi, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre du Haut Conseil pour le Climat. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous venez de co-signer avec 60 autres scientifiques parmi les plus réputés sur le sujet une étude qui fait l'état des lieux du réchauffement climatique pour l'année 2024. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, n'est désormais plus atteignable.
Eh bien, vous veniez dans le reportage précédent de parler de pétrole. La combustion des énergies fossiles ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, malgré les efforts qui ont été accomplis, qui ne sont pas suffisants, continuent encore à augmenter. Cela piège de la chaleur et cela entraîne donc une accumulation de chaleur dans l'ensemble du système climatique et c'est ce qui est responsable du réchauffement planétaire. Et quand on fait le point sur le réchauffement planétaire, on voit que le réchauffement dû aux activités humaines, il se poursuit même à un rythme plus élevé au cours de la dernière décennie que précédemment. La partie réchauffement due aux activités humaines, elle atteint 1,36 degré quand on regarde jusqu'à fin 2024. Mais l'année 2024 avait été même plus chaude, première fois que ça a dépassé 1,5 degré, parce qu'à cela s'est ajoutée la variabilité spontanée du climat, notamment l'événement El Niño dans les tropiques en 2023-2024, et puis une variabilité chaude dans l'océan Atlantique Nord. Et quand on regarde la partie uniquement due à l'influence humaine, on voit que la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement largement sous 1,5 degré, ce serait l'équivalent de 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel. Et donc, même en tenant compte des engagements les plus ambitieux de tous les pays du monde, ça n'est plus atteignable. Donc, on va très vite vers ce niveau de réchauffement.
Et est-ce que les politiques mises en place depuis l'accord de Paris ont été complètement inefficaces ?
Non, depuis le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, il y a eu des efforts, je le soulignais tout à l'heure. Il y a 24 pays, comme en France, dans l'Union européenne, depuis les années 90, les États-Unis depuis 2005, dont les émissions de gaz à effet de serre ont baissé dans la durée. C'est aussi le cas de la Chine, dont les émissions n'augmentent plus depuis un an, donc un signal encourageant, mais à consolider dans la durée. On sait ce qui fonctionne, hein, l'efficacité énergétique, l'efficacité, la sobriété d'ailleurs. Ce qui fonctionne également, c'est les technologies propres, hein, qui permettent de répondre aux besoins en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un ensemble de leviers d'action, puis aussi renforcer la capacité de la nature à stocker du carbone, c'est un point qui est important. Donc on voit ce qui fonctionne, mais l'effort qui a été fait jusqu'à présent, il n'est pas suffisant. Il y a même des signaux très inquiétants de retour en arrière, notamment aux États-Unis.
Est-ce qu'on peut parler donc d'échec de l'accord de Paris ? Est-ce que les gouvernements sont passés à côté de certains enjeux ?
L'accord de Paris, il vise à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés avec l'aspiration à le limiter à 1,5 degré et il faut expliquer pourquoi. En fait, chaque dixième de degré supplémentaire, ça va doper les vagues de chaleur, leur intensité, leur durée, leur fréquence, les pluies extrêmes, les sécheresses agricoles. On sait que ça entraîne des dégradations des écosystèmes, hein, des forêts, des coraux, moins de potentiel de pêche dans les tropiques. Ça touche les rendements agricoles. Et donc, limiter le réchauffement, c'est important pour assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau. C'est aussi important pour avoir des écosystèmes en bonne santé. Et puis, c'est important pour les activités économiques dans leur ensemble. Et donc, par rapport à l'accord de Paris, on voit que l'aspiration la plus ambitieuse, contenir le réchauffement à 1,5 degré, eh bien, ce niveau-là va être rapidement atteint. On a tout intérêt, en fait, à le contenir au niveau le plus proche de cela, par rapport à l'escalade des impacts et des risques. Hein. Je n'ai pas non plus mentionné un point important de notre étude. Notre étude, elle souligne aussi qu'une des conséquences de l'accumulation de chaleur dans le climat, qui est due aux activités humaines, bien, le gros de la chaleur rentre dans l'océan qui gonfle. Ça entraîne aussi une fonte des glaces continentales, les glaciers, Groenland, Antarctique. Et tout cela contribue à la montée du niveau de la mer. Donc la mer a monté dans le monde de quasiment 23 cm depuis 1900 et son rythme accélère. Donc il est passé de 1,8 mm par an à maintenant près de 4 mm par an. Et ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre à long terme aussi. Hein. Ça n'est pas fini parce que la propagation de chaleur n'est pas finie. Les glaciers vont encore reculer pour s'ajuster au climat d'aujourd'hui.
Et est-ce que c'est encore possible de s'adapter justement à ces chaleurs extrêmes et à cette montée des eaux ?
Première chose, pour limiter les risques, agir sur les causes, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, bien sûr, il y a des leviers d'adaptation, mais qui présentent tous des limites. Et donc, pour éviter un futur qui sera très difficile à gérer, c'est important de renforcer les efforts pour limiter le réchauffement. Et là, il y a des leviers d'action partout. Ensuite, la deuxième chose, il va falloir gérer l'inévitable, hein, c'est-à-dire s'habituer, se préparer, anticiper les caractéristiques d'un climat qui se réchauffe. Et donc, par exemple, en France, le plan national d'adaptation au changement climatique, il s'appuie sur une trajectoire qui anticipe un réchauffement de 2 degrés dans le monde vers 2050, et puis 3 degrés vers 2100, c'est-à-dire une France 4 degrés plus chaude. Une France 4 degrés plus chaude en 2100, c'est quand même 10 fois plus de vagues de chaleur hein, qu'à la fin du XXe siècle.
Oui, mais merci Valérie Masson-Delmotte pour ces explications. Je le rappelle, vous êtes paléoclimatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre du Haut Conseil pour le climat. Et on en parlait justement, ce besoin de s'adapter. Après Paris en novembre, c'est au tour de Lyon d'interdire le transit des véhicules dans son centre-ville à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une ZTL, zone à trafic limité. Il en existe plus de 200 en Europe. Seuls les riverains, taxis, commerçants et artisans pourront circuler. Cela concerne 55 hectares de la presqu'île lyonnaise, soit une quinzaine de rues. Une mesure phare de la politique des écologistes aux manettes de la ville de Lyon. L'objectif de cette ZTL, limiter la pollution et le bruit et protéger les piétons, déjà majoritaires dans le centre-ville. En pré-période électorale, le sujet est inflammable, Mathilde Inverti.
C'est Jean-Michel Aulas, probable candidat au municipal, qui dénonce une piétonnisation brutale. C'est un collectif de commerçants qui crie à la mort des boutiques de centre-ville. Et c'est à la mairie de Lyon une politique assumée. Valentin Lungenstrass, adjoint en mobilité.
Oui, c'est un projet qui est important pour nous. L'objectif premier, c'est vraiment la sécurité et le confort pour les piétons. Après, on évaluera les autres bénéfices qu'on peut attendre, que ce soit sur le bruit, sur les questions de pollution de l'air. Mais la priorité, c'est vraiment la sécurité du piéton.
Et les piétons croisés rue de la République, principalement. Pas l'artère commerçante, à partir d'aujourd'hui sans voiture, apprécie en effet le geste.
Trop bien, en vrai ça va être cool. Hyper agréable, en vrai c'est pénible la circulation.
Moi je trouve que toutes les grandes villes et les centres-villes devraient être piétons. D'un point de vue écologique, je trouve ça intéressant aussi.
Boutique Bexley, chaussures et vêtements pour hommes, selon le vendeur Antoine Merget, ce sera quitte au double.
Soit tout le monde va partir dans les centres commerciaux, soit dans les arrondissements où c'est plus accessible de se garer, soit tout le monde va venir juste pour la journée, du coup ça va nous faire plus de trafic des clients et des gens. Quoi.
Dans l'attente aussi, Eva Pigeot, dans sa boutique de chemise. Au bout de sa rue, une borne escamotable empêchera les voitures de passer, sauf le matin pour les livraisons.
Il y avait déjà eu une expérimentation qui avait été faite avec des bacs de fleurs et le point positif que j'avais trouvé, on travaillait au calme. Mais après, il faut voir pour la fréquentation des boutiques.
La verbalisation sera assurée par des agents municipaux. En France, la vidéo-verbalisation par la plaque d'immatriculation n'est pas autorisée.
Pile à temps pour la fête de la musique, la star de l'été dernier fait son grand retour. La vasque des Jeux Olympiques s'illuminera de nouveau ce soir au Jardin des Tuileries avant de s'élever dans le ciel parisien. Une volonté de tous les acteurs de Paris 2024, tant elle avait marqué les esprits. Emma Sarango nous replonge dans les souvenirs olympiques.
Il est presque minuit ce 26 juillet 2024 quand on la découvre pour la première fois.
Marie-Josée Pérec et Teddy Riner vont donc traverser cette passerelle, allumer la vasque qui est dans un ballon.
De son appartement face à la vasque, Annette, 92 ans, s'émerveille.
C'est magique, vraiment. Et moi je pleure, hein. Je pleure.
Puis commencent les JO, les épreuves, les médailles, les hymnes. Mais la vasque reste la vedette. Chacun veut connaître ses secrets.
Des brumisateurs, nimbes pour cela, la lumière de puissantes lampes LED. La nacelle qui les porte pèse près de 2 tonnes. Elle s'élève à 60 mètres de hauteur.
Tous les soirs, autour de 21h30, le spectacle recommence.
1, 2, 3, 4. décollage, nacelle.
Et tous les soirs, ils sont de plus en plus nombreux à s'extasier.
C'est vraiment magnifique. Elle s'élève tout doucement. Ça fait comme de la vapeur.
Au point que les jeux ne sont même pas terminés, que l'idée de conserver la vasque naît dans la tête de son designer, Mathieu Lehanner.
On a la sublime dame de fer, la tour Eiffel, qui a vécu la même histoire, qui n'était pas là pour durer.
Et quelques mois de discussion plus tard, voilà que l'objet éphémère revient pour 3 mois, remettre un peu de poésie dans le ciel bleu de Paris.
Le ciel bleu sur nous.
Un ciel bleu qui annonce un temps trop chaud comme celui d'aujourd'hui. 16 départements placés en vigilance orange canicule avec des pics jusqu'à 39 degrés. Midi 45 sur France Culture.